Sans plus tarder, je voudrais faire trois lectures. La première dans Marc, chapitre 16, et le verset 15. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et puis dans Romains chapitre 10, s'il vous plaît, et le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Enfin, dans Actes, chapitre 11 et le verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Quelques instants, on va prier que le Seigneur puisse nous enseigner. Seigneur, c'est à toi que nous adressons cette prière. Viens nous parler encore, Seigneur. Viens nous captiver par ta parole, Seigneur. Nous entendons tellement parfois de paroles, mais la tienne, elle ne passera jamais. Alors, Seigneur, saisis-toi de chacun de nous et fais de nous un peuple de conviction, de la conviction de la parole qui est la vérité, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, cela t'a été demandé par mes frères et sœurs. Moi-même, je crie auprès de toi, te disant, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais, Seigneur, en toi, nous avons tout pleinement. Notre capacité nous vient de toi, Seigneur. Qui est suffisant pour ces choses? Seul toi. Alors agis maintenant par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors si je devais donner un titre à ce message, je voudrais parler notre vocation suprême. À chacun, notre vocation suprême. Vous avez déjà compris dans les trois lectures qui ont été faites que le Seigneur nous appelle à donner la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Allez, allez partout. Et il est dit que les premiers chrétiens, sans trop que l'on fasse d'enseignement, de séminaire, ont de suite compris que si eux sont sauvés, il faut aussi amener les autres qui ne le savent pas, qui ne savent pas le chemin, eh bien, à connaître Jésus et la vérité. Alors, je vais m'entretenir avec vous ce matin à ce sujet-là. L'ordre d'aller, Jésus l'avait dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Suivez-moi, bien sûr, nous ne pouvons pas aller évangéliser si nous ne suivons pas Jésus. Mais suivre Jésus, c'est regarder vers lui, c'est regarder comment il a vécu. L'exemple de Jésus, c'est cela, suivre Jésus. On ne pourrait pas se mettre à témoigner et à amener les gens à Jésus si nous, on a une vie qui n'est pas conforme à l'Évangile. Vous êtes des flambeaux dans le monde. Vous êtes une lumière dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez suivre Jésus et en suivant Jésus, obligatoirement, vous allez être des pêcheurs d'hommes. Des hommes, des femmes, des jeunes, des ados, des enfants pourront croire à la parole que vous leur annoncez parce que déjà, votre témoignage vécu parlera. Votre vie doit parler. Votre façon d'être, votre manière de parler, tout doit montrer que vous avez changé et que votre vie maintenant ne vous appartient plus pour marcher dans la chair, mais vous devez marcher dans le Seigneur Jésus. Fixez les regards vers lui. Sachez que Jésus, lui, il est le modèle, il est l'exemple. Et suivez-le, vous serez pêcheurs d'hommes. Ah, bien sûr, tout nouveau chrétien, tout nouveau baptisé doit être enseigné, peut-être succinctement, mais se dire, si je suis sauvé maintenant, je dois servir le Seigneur. Et c'est ce que, je le crois, pour beaucoup vous faites, vous devez parler de Jésus, vous devez témoigner, même si parfois les gens vous jugent, vous rejettent. Cependant, votre vocation suprême, c'est de dire ce que vous avez compris, ce que vous avez expérimenté, votre vécu. Et puis, le message que vous avez à dire, il est tout simple. En 30 secondes, vous pouvez annoncer le plan du salut à quelqu'un. En 30 secondes, quelqu'un qui est à l'article de la mort, au stade terminal, vous pouvez lui dire comment ? Eh bien, être déjoué de l'enfer et se tourner vers Jésus qui va les amener au paradis. Le message est simple. Vous êtes perdus dans vos péchés. Mais un seul peut vous sauver, Jésus-Christ, car il est mort sur la croix en sacrifice. Il a porté tous vos péchés. Invoquez-le simplement. Demandez-lui pardon et vous êtes sauvés. Tous, chacun de vous qui avez expérimenté connaître Jésus, eh bien, vous pouvez témoigner ainsi. Ce message, nous devons le diffuser partout dans le monde. Et maintenant, je vais aller encore plus loin. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand Jésus a quitté les disciples une fois ressuscité, il est parti dans le ciel. Mais il leur a dit avant de partir, avant d'aller, attendez. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors, vous allez être mes témoins, des évangélistes, à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé, hommes et femmes, et priaient, et ils ont prié, et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur eux, et chacun a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que je me dis, au fond, l'évangélisation n'était pas l'exclusivité des apôtres, des serviteurs de Dieu, comme on peut parfois le penser. Mais l'évangélisation, c'est pour tous, tous autant. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, souvenez-vous que je vous ai dit que c'est pour que vous soyez des témoins jusqu'au bout de la terre. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire que tous, nous devons croire, être baptisés du Saint-Esprit, le demander si nous ne l'avons pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on dit, ah, vous êtes les évangéliques pentecôtistes. Mais vous savez qu'au début de l'Église, au début, on ne disait pas tout ça. C'était tout à fait naturel d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on fait des différences. Hein. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne croyons pas au baptême du Saint-Esprit, nous ne le voyons pas comme vous, tout cela. Ça n'existait pas à l'époque. si on veut aujourd'hui prendre le langage de nos jours, eh bien, c'était tous, dès l'origine, des pentecôtistes. Tous les chrétiens étaient des pentecôtistes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit en vue de faire connaître partout, jusqu'au bout du monde, eh bien, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je me pose la question, comment on peut avoir la force d'aller vers quelqu'un, même lui parler de la bonne nouvelle, sans être rempli du Saint-Esprit, puisqu'initialement, c'est la condition. Attendez, avant d'aller, soyez baptisés du Saint-Esprit. Alors, je veux, sans culpabiliser personne, vous dire que si aujourd'hui, vous êtes, comme on le dit de nos jours, dans un cadre d'église évangélique pentecôtiste, et que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, ne jugeons pas, mais reconnaissez que vous avez le privilège, dans le contexte où vous êtes, d'entendre que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, parler ces nouvelles langues et faire que déjà vous êtes rentré dans le miracle qui va vous envoyer d'un côté, de l'autre, porter la bonne nouvelle. Amen. Vous n'êtes pas dans la restriction, vous n'êtes pas dans la polémique, vous n'êtes pas dans la critique, vous êtes tout simplement dans le cadre où nous croyons, comme ont cru les premiers chrétiens, qu'il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur veut tellement le donner qu'il a même dit avant d'être crucifié, vous devez avoir soif. Et si quelqu'un a soif, eh bien, des fleuves d'eau vive couleront en l'intérieur de sa vie. Et il parlait de Saint-Esprit qui allait venir. Et puis Jésus dira que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui le lui demandent, et même à tous ceux qui lui obéissent. C'est tout à fait normal. La première des choses que Jésus a faites, une fois s'être assis à la droite de Dieu, il a répandu son esprit, alléluia, sur toute chair, sur tous ceux qui ont soif, qui le demandent, qui le croient et qui disent « Seigneur, maintenant, ce que je ne pouvais pas faire, tu me rends capable de le faire par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Et alors, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, il ne faut pas oublier que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez un baptême d'amour. Ah, le mot amour est galvaudé aujourd'hui, on parle comme ça, banalement, mais on reçoit un baptême de l'amour divin, de l'amour de Dieu, ce qui fait que tout le mal, tout l'égoïsme, toutes les méchancetés, toutes les rancunes, toutes les mauvaises choses s'en vont pour laisser place à la perfection de l'amour de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus des a priori, on n'a plus des approches différentes des uns des autres, mais on aime. Et vous savez, quand on s'aime, on n'a pas peur. L'amour de Dieu bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas peur. Tant pis si on vous crache au visage, tant pis si on froisse le traité que vous avez donné, tant pis si on vous persécute, mais vous continuerez à aimer. Aimer de l'amour de Dieu. Et cela, seul le Saint-Esprit, quand il nous remplit, nous en rend capable. Oh, un jour, quelqu'un a dit, mais qui est mon prochain? Alors qu'un sacrificateur, un lévite, était passé sur un chemin où un homme avait été roué de coups, plein de sang. Mais eux, ils n'avaient rien fait. Un samaritain est passé. Eh bien, il a soigné, il a pris sur sa monture, il a porté à l'hôtellerie. Il a pris soin de lui. Qui est mon prochain? Ce sont les gens blessés. Vous savez, on vit dans un monde blessé. Vous le savez, Et aujourd'hui, le remède, ce n'est pas un changement, excusez-moi, politique, même au niveau mondial, mais le grand remède, c'est Jésus. C'est Jésus qui enlève les blessures du cœur. Que de gens blessés, mon prochain est blessé. Même quand je le vois sourire, danser ou faire le malin, il est blessé. Mon prochain, qui est-il? C'est un esclave de Satan. Nous étions esclaves. Mais grâce à Dieu, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et que de gens font ce qu'ils n'auraient jamais voulu faire, qui ont été forcés dans la perversion parfois, dans le crime, dans le mal. Satan tient et mène, il est dit, il gît, le monde entier gît sous la puissance du malin. Et que de personnes sont esclaves, oppressées. Seul Jésus est venu pour rendre libres les captifs, délivrer les opprimés. Nous devons annoncer à toutes ces personnes-là l'Évangile, seul remède. Il y a aussi les ignorants. Mon prochain, c'est celui qui ignore. Il a été trompé. Un jour, il s'est réveillé dans la vie conscient et on lui dit, voilà ta religion. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas souhaité, il est né neutre. Mais en grandissant, on lui dit, voilà ta religion. Et certains pratiquent une croyance, une religion qui ne mènera pas au salut, mais à la perdition. Ils ignorent. Et je me souviens, pendant des années, j'ai cherché, j'ai tant cherché le bonheur, la vérité, et même ne plus avoir peur de la mort. Je ne trouvais pas dans une religion qui m'avait été transmise. J'étais trompé. J'étais ignorant, mais un jour, on m'a donné un traité. Voilà, le frère m'en a parlé ce matin. Un traité évangélique qui parlait de Jésus mort sur la croix. Et là, je suis sorti déjà de l'ignorance. J'ai cherché tous les moyens où l'on prêche la vérité, je l'ai trouvé. Et vous savez, que de gens ignorent. Il faut leur parler de Jésus. Vous savez, mon prochain que je dois aimer, c'est mon semblable. C'est-à-dire quelqu'un qui pense, qui a des sentiments, qui est dans le mal-être. Et le Seigneur a dit aussi, faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous. Et je me mets à la place, par empathie, par compassion, à la place de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Aucune espérance dans le monde, aucune espérance par rapport au futur, rien à l'horizon qui peut donner, dédramatiser l'état de l'âme dans leur intérieur. Et je me dis, mon semblable, je dois lui dire la bonne nouvelle. Ma sœur, mon frère, tu dois évangéliser, tu dois porter la bonne nouvelle parce qu'il te ressemble, ton frère, ta sœur, nos frères et sœurs d'Adam et Ève nous ressemblent. Et puis, vous savez, mon prochain que je dois aimer, c'est un être, et vous allez être d'accord avec moi, qui a été tant aimé par Dieu qu'il a donné Dieu son Fils unique pour que cette personne soit sauvée. Quand on regarde les êtres humains, on les croit dans la rue, la foule ou l'être tout seul, je me dis, voilà un être qui a été tant aimé par Dieu et il sera aimé. La preuve, c'est que Jésus a été donné. C'est pourquoi toutes les réticences, comme je le disais, tous les a priori, tous les reculs, il n'y a pas de gens hideux, il n'y a pas de gens monstrueux, à tel point que le Seigneur ne puisse les convaincre, les sauver, les tirer avec ses liens d'affection et en faire des créatures nouvelles, changées, qui peuvent être même des serviteurs, des servantes de Dieu. Parce que il y a l'amour et il nous faut cet amour qui nous est transmis par la puissance du Saint-Esprit. Mon prochain, c'est l'homme, la femme, le jeune, l'adolescent désespéré, le vieillard désespéré. Parfois, la désespérance mène certains à s'autodétruire, à se suicider, ou à ne plus vivre paisible, tranquille, plutôt comme un zombie, parfois dans une camisole chimique où il ne pense plus. Mon prochain a besoin d'entendre celui qui les aime tant et qui veut délivrer leur âme de sa prison. Par amour, l'amour de Dieu, nous puissions aller vers nos semblables, notre prochain, et ne pas passer outre et ne pas nous dire, j'y viendrai plus tard, que nous avons, nous, d'autres problèmes, nous avons d'autres sujets à entendre de la parole de Dieu que celui d'aller vers les autres. Mais écoutez-moi, nous avons réglé la plus grande des choses, la plus inouïe, c'est celle de nous mettre en règle avec Dieu, c'est celle d'être réconcilié avec Dieu. Alors, tant pis, les problèmes inhérents à l'existence, l'important, c'est que nous puissions parler en tout lieu, en tout temps, de Jésus même. Regardez, le problème, nous l'avons lu dans Actes 11, ils étaient dispersés, les chrétiens. On leur a enlevé les maisons, ils sont partis en exil. Mais pendant qu'ils étaient même dans cette tourmente-là, ils arrivèrent à témoigner, à parler de Jésus, à parler, à s'occuper de leurs semblables, à un point tel que ce jour-là, beaucoup se convertirent au Seigneur, et cette fut la première église où on appelait les disciples chrétiens à Antioche, et de Antioche, les missionnaires sont partis dans le monde. Regardez, ils avaient des problèmes. Peut-être as-tu un problème, mais dis aux autres la bonne nouvelle. Évangélise malgré tout, et le Seigneur te donnera par la puissance du Saint-Esprit, de te remplir encore plus pour les aimer. Comment, nous l'avons lu, croiront-ils, s'ils n'ont jamais entendu que l'on prêche Jésus? Comment l'invoqueront-ils et comment si et croiront-ils en lui s'ils n'en ont jamais entendu parler? Oui, on aurait pu penser dans nos pensées, que Dieu confie l'évangélisation du monde à des anges. Apparemment, ils auraient fait ce travail, mais on ne connaît pas tout, on ne sonde pas la pensée de Dieu. Qui peut la connaître? Mais si Dieu vous a choisi, quel honneur d'être des ambassadeurs pour Christ, quel honneur d'être des sentinelles qui se tiennent vigilants et qui avertissent le danger qu'encourt l'humanité d'aller en enfer s'il ne se tourne pas vers Jésus. Quel privilège! Il a choisi des pécheurs graciés par lui pour que, à leur tour, ils aillent dire aux autres la bonne nouvelle. C'est pas un privilège? Ça ne vous donne pas envie de partir là, presque de vous lever, d'aller dans la rue pour témoigner? Au fond, on va y arriver à la fin. Passons à l'action. Je n'ai pas tout à fait fini, mais vous dire, frères et sœurs, que quand j'ai regardé la parabole de Jésus sur les différents terrains, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que le semeur se leva, sortit pour semer, sans tenir compte si le chemin était dur, si la terre était caillouteuse ou pleine d'épines, tant mieux, il a trouvé une bonne terre, mais en tout cas, sans essayer de comprendre ni du pourquoi, la mission du semeur, c'était d'accomplir sa mission, son statut, eh bien, je me lève et je sème. Il est dit que celui qui considère le vent, Ecclésiaste 11, 4, il ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages, il ne moissonnera pas. Nous avons toutes sortes de prétextes pour ne pas évangéliser. Nous ne sommes pas encore assez affermis, nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu, Je suis fragile, je suis faible, j'ai un peu peur. Ne regardez pas les nuages, ne regardez pas le vent, ne considérez pas les terrains. Allez, la semence que vous avez, c'est la vraie, c'est la semence de l'Évangile qui est la puissance même de Dieu pour le salut de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Évangile. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas tergiverser ainsi annoncer l'Évangile sans tenir compte de toutes les raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas. Souvenez-vous, je sois rempli du Saint-Esprit, Seigneur, et que j'accomplisse l'appel que tu m'adresses aujourd'hui, c'est d'évangéliser. Aussi, vous dire que c'est urgent. Parfois, un manque de vision. C'est-à-dire, écoutez, la nuit vient où personne ne pourra plus rien faire. Regardez la liberté que nous avons à Toulouse, dans les environs, dans les campagnes. La liberté malgré tout. On parle beaucoup de ne pas faire d'amalgame. Nous ne sommes pas des radicaux. On ne s'est pas fait radicaliser. Nous sommes tout à fait naturels de ce qui a toujours existé. C'est-à-dire que nous avons la liberté d'annoncer l'Évangile partout. Mais viendra le moment où l'Évangile ne sera plus annoncé. L'Église sera enlevée. Et quels sont ceux qui, en restant, seront sauvés? Très peu. Et au prix de douleurs et de souffrances impossibles. Mais certains se rappelleront peut-être qu'ils n'ont pas fait le bon choix à temps. Mais je dis aujourd'hui, avant la nuit, c'est urgent. Annonçons l'Évangile. Ne prenons pas les grains de blé pour les entasser dans le grenier et les y laisser. Ne croquons pas le grain de la bonne semence, mais mettons-la en terre. Jésus vous a donné un message. Jésus vous a donné d'être ses ambassadeurs, de porter l'Évangile, d'être ses évangélistes. Oh, je vous en supplie, n'attendez pas que la nuit vienne. Et puis, la vision, l'urgence, c'est que quand les gens décèdent, vous êtes au courant, on le voit, de toute façon, d'après les statistiques mondiales, un être humain meurt chaque 2 secondes. Alors, le décès, s'ils n'ont pas Jésus, écoutez, même s'il ne faut pas parfois choquer, heurter les gens, mais celui qui n'a pas Jésus comme sauveur, il va en enfer. Il va en enfer. C'est les temps de feu, c'est le tourment, et cela aux âges des âges. Ça fait quelque chose. Non-assistance à personne en danger, coupable. Comment peut-on se défendre? Nous avons besoin, eh bien, d'avertir. Les gens meurent, et sitôt qu'ils meurent, eh bien, ils basculent dans le tourment, dans les ténèbres, comme Luc chapitre 16 nous le montre, que cet homme, ce mauvais riche, il était en proie au tourment, déjà, en proie au tourment. Impossible de changer d'endroit. Et puis, vous savez, je dis que le manque de vision, c'est peut-être on n'étudie pas assez la vie des êtres humains. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je connais quelqu'un ou que j'ai connu quelqu'un qui décède, même une star, j'essaye, très vite fait, d'analyser sa vie et de regarder ses réalisations, ses succès, ses échecs, ce à quoi ils ont été passionnés. Et j'en conclus, comme Salomon l'a dit, j'ai tout fait, j'ai tout eu, j'ai tout essayé. Et après tout, déçu, il dira, tout est vanité, tout est poursuite du vent. Au fond, Je dis que la plus grande des choses qu'un être humain puisse réaliser sur la terre et qui a un fondement éternel, c'est de se convertir à Jésus, c'est de sauver son âme. C'est pourquoi, quand on regarde les gens, on est des fois ébloui par des réalisations, et c'est vrai que la science, le progrès, nous font parfois, nous laissent pantois, mais quand même, la plus grande des choses qu'un être humain puisse avoir à faire sur la terre, c'est de se convertir à Jésus, c'est de crier à Jésus « Pardonne-moi !» Se repentir, s'il ne fait pas cela, il bascule en enfer, et vous savez, on n'emporte rien. Rien en enfer, mais ni rien au paradis. C'est pour cela que quand notre âme, elle est portée au paradis, c'est la plus grande des grâces, et nos œuvres nous suivent. Et les œuvres qui vous suivent, c'est d'avoir pensé par amour à votre prochain en lui disant la bonne nouvelle et ne pas rester là impassible à regarder qu'inexorablement la terre se dérobe sous ses pieds et comme Corée d'Athan à Biran, on va dans les entrailles. Non, c'est une image, mais parfois on reste là et on dit les gens meurent, les gens s'en vont et nous, que faisons-nous? Nous ne sommes pas un ghetto, nous sommes une église. Et nous ne sommes pas là pour vivre et nous faire que du bien entre nous. Mais tout ce que nous faisons ici et en nous édifiant, c'est en vue de dire aux autres la bonne nouvelle et de servir Dieu et de démontrer par notre vécu que vraiment nous sommes des vrais croyants. Je termine. Les perdus, où sont-ils? Je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter trop, mais les perdus, parfois, ils sont dans notre famille. Ils sont dans les villes, dans les campagnes. Les perdus, ils sont à l'étranger, allés partout. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les prisons. Les perdus sont des fois, ils sont au travail. Les perdus, ils sont dans leur religion. Et j'en passe. Voilà. Nous avons, il y en a qui disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur maintenant? On ne m'a pas donné une charge. Comment? Mais c'est pas l'homme a donné une charge. C'est le Seigneur qui nous a donné à tous, sans exception, en tant que chrétien, une charge, c'est d'annoncer l'Évangile partout. Et frères et sœurs, on peut créer des situations dans le train, en faisant du covoiturage, dans les repas, par un traité. On peut, parce que parfois, avec un traité, les gens peuvent lire et se convertir par du social, les dispensaires, le travail des écoles, par arrière-plan, mais toujours avec le but initial, c'est d'amener l'âme à Jésus, des orphelinats, mais même des fois en balade, en faisant une randonnée, en voyageant à l'étranger, dans des destinations, comme on dit, de rêve, il y a des perdus partout. Vous pouvez être des missionnaires, même si en arrière-plan, vous partez pour un voyage qui vous fait plaisir. Partout, votre vocation suprême est avec vous. Elle colle à votre peau, elle colle à votre âme, et vous ne pouvez pas vous dissocier de cela. Oui, je vous avais dit que je termine, je vais essayer très vite, 11h15, à quelle heure nous terminons? Ça vous va 10 minutes? Et je vous ai parlé de l'évangélisation. Et si par cas, en évangélisant, vous savez, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Plus vous évangélisez, plus vous avez envie. Vous revenez chez vous avec joie, chant d'allégresse. Parfois, vous partez avec larmes. Parfois, il faut se booster et se dire, mais j'y vais, je m'ordonne, je me commande. J'y viens à la fin. Mais je vais vous dire quelque chose. À la force que tous les chrétiens, tous, nous évangélisons, eh bien cela peut déboucher à un réveil. Et j'y viens, le réveil bien sûr. C'est, comme je le disais antérieurement, le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit qui va ratisser large et qui va faire des choses extraordinaires, miraculeuses. Écoutez-moi, la chose que j'ai remarquée dans la Bible, vous la remarquez avec vous, à partir du jour de la Pentecôte où les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, le monde a changé. L'histoire du monde a changé. Jamais plus. Ça n'a été pareil. Et je me dis, essayant l'imagination, s'il n'y avait pas eu le baptême du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, une poignée serait restée à Jérusalem. Nous ne serions pas là ce matin. Ça a changé le cours de l'histoire. Et je vous dis, frères et sœurs, il nous faut un réveil, il nous faut préparer l'évangélisation, le réveil par la prière. Franchissez, franchissez les obstacles, il est dit dans Ésaïe 62, verset 10. Et parfois, pendant que nous prions, nous sommes alarmés de voir que la masse, le monde, 7 milliards, 400 millions d'habitants, un monde entier se meurt, va en enfer, à part quelques chrétiens. Peut-être même pas 1 milliard, né de nouveau. Est-ce possible? Et quand on prie, le Seigneur boucle la latitude qu'avait Satan, de manière en ce qui était empêché de croire et qui était aveuglé, pourront croire. Les résistants de hier à l'Évangile peuvent être très accessibles demain, parce que nous prions. Nous nous tenons à la brèche. Et le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Et à l'époque d'Ézéchiel, n'en trouvait pas, qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, afin qu'il ne détruise pas le pays. Combien parfois, je fais un entre parenthèses, nous perdons du temps, nous le gaspillons. C'est une vie si chère. Parfois on dit que certains parlementaires se font payer pour faire des conférences et c'est des milliers d'euros, de dollars. Mais ta vie, ton temps, vaut plus que tout cela. C'est que tu es un ambassadeur et que tu dois dire la bonne nouvelle de Jésus partout. Et c'est là que, en même temps, quand tu n'es pas dehors et que tu es dedans, et que tu entres dans ta chambre, et que tu fermes ta porte, et que tu pries, et que tu intercèdes. Puisqu'il est dit dans Timothée, priez pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans la deuxième épître de Pierre, Dieu patiente à l'égard de tous, ne voulant qu'aucun périsse. Prenons ces paroles et prions. Aujourd'hui, avec la facilité d'Internet, on peut avoir tous les pays du monde, se les tirer et prier pour tous les pays du monde. Tellement qu'un jour, j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, le Guam. C'était farci, c'était plein de serpents. Et j'ai découvert, en priant, je dis, mais il y a des âmes qui vivent là-bas. Et je ne sais pas la portée de la prière qui est liée à celle de Jésus pour avoir une action, un impact dans des tribus, dans des ethnies qui ne connaissaient pas Jésus. Priez pour le réveil, pour l'effusion de l'Esprit, pour que maintenant nous puissions voir la gloire de Dieu. Et en relation à la prière, vous savez, vous le lirez chez vous, Luc 18, verset 1er, Jésus, quand il parle de la veuve devant le juge unique et que le juge unique a fini par céder, Jésus dira, « Entendez. Et vous ?» qui criez à Dieu jour et nuit, ne vous fera-t-il pas justice? Oui, il vous fera promptement justice, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà, eh bien, le climat dans lequel nous devrions prier, d'une persévérance, d'une foi qui ne lâche rien. Nous ne devons rien lâcher. Le monde se meurt, nous ne les lâcherons pas. Nous les voulons pour Jésus et dans la prière. le Seigneur se demande si même des chrétiens y croiront. Y croyez-vous, frères et sœurs? Y croyez-vous que pendant qu'on intercède, que l'on prie, il y a des liens qui tombent, il y a des verrous de fer qui sont brisés, il y a les ténèbres qui sont éradiquées? Est-ce que vous le croyez? Et c'est là que le Seigneur peut, à ce moment-là, eh bien, faire bouger l'humanité, les 5 continents du monde, les 200 pays de la terre, et permettre, eh bien, que, avant l'enlèvement, avant son retour, puisque je crois que c'est l'Église qui retient que le diable fasse plus pire encore, eh bien, nous puissions empêcher le diable par la vie de prière, par la puissance du Saint-Esprit, et permettre aussi qu'en même temps, des milliards échappent au jugement dernier et soient sauvés. Frères et sœurs, c'est le message que je vous adresse. J'ai eu parlé du réveil, je ne m'étendrai pas plus maintenant, mais je crois que c'est le salut du monde et il faut le demander et il faut le croire. Et parfois, eh bien, on n'a pas toujours l'occasion de se réunir tous les jours. Eh bien, dans l'Église, c'est vrai que la prière en commun, c'est important, mais parfois on peut trouver 2-3 personnes qui sont d'accord pour demander cette chose au Seigneur. Eh bien, c'est important, mobilisons-nous pour cela. Final, eh bien, maintenant j'y arrive, passons à l'acte. Prenons, s'il vous plaît, ce n'est pas un ordre, ici personne n'impose, Jésus n'a jamais rien imposé, mais prenons, écoutez, suggestion, 30 minutes par semaine, vraiment réservées à l'évangélisation. Cette fois, je sors, je prends une poignée de traités, demandez aux frères, et je les mets dans la poche, je sors 30 minutes. Il faut commencer parfois quand on n'a pas l'habitude, doucement. C'est comme l'entraînement du marathon, il ne faut pas commencer à vouloir faire ses 42 km le premier jour. Il faut progressivement. Sortez 30 minutes et commencez à contacter les pécheurs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Soit vous donnez un traité, soit vous allez avoir l'occasion de parler avec, et de suite, vous allez vous trouver l'ambassadeur de Christ, la sentinelle qui avertit. Vous allez en éprouver beaucoup de joie, mais après, bien sûr, ça va devenir un mode de vie pour chacun d'entre vous. Et puis, autre chose, je vous dis, chaque jour, priez, serait-ce 15 minutes pour les différents pays du monde. Priez pour eux, priez pour l'Église malheureuse, et parfois l'Église qui peut être tiède, et prenez ce temps. Et plus vous allez prier ensuite, vous allez trouver du temps et du temps et du temps, parce que comme le disait quelqu'un, la réponse à la prière, c'est toujours encore plus de la prière. Et vous savez, quand on prie, le Seigneur entend, et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandée, nous l'avons obtenue. Et nous devons prier avec foi. Ce n'est pas de la prière machinale, un flot de paroles, mais c'est la prière où on se tient devant lui en exclusivité. C'est une démarche tout à fait personnelle devant lui et on prie. Vous savez, l'isolement pour la prière, je compare à ceux qui, le soir, s'installent sur le canapé, ils s'isolent et regardent un film. Et puis, il ne faut pas parler. Peut-être parce qu'ils veulent être captivés, ils s'isolent pour les choses de la terre qui vont passer. Et parfois, on dit, « Oh, moi je prie dans ma voiture, je prie en allant au travail, je prie en me couchant. » Et pourquoi on ne s'isole pas pour avoir une démarche personnelle auprès de notre Sauveur que nous avons tant besoin de connaître? Pourquoi nous ne faisons pas cette démarche exclusive où on ferme la porte, on est seul à seul devant lui, on répand notre âme, on pleure pour le monde perdu, lui nous met le fardeau, la passion des âmes. Pourquoi nous ne faisons pas cela? Dieu de grâce permet que nous y arrivions passons à l'acte. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Allons par le monde entier, connaissons la Pentecôte, soyons remplis du Saint-Esprit. Ne vous donnez ni tranquillité ni repos jusqu'à que vous soyez remplis du Saint-Esprit et vous verrez que je n'ai fait que vous parler comme si j'avais effleuré un vaste océan. Vous-même, vous allez découvrir la gloire, la grâce et le bonheur qu'il y a d'être des évangélistes sur la terre jusqu'à que le Seigneur nous prenne. Amen. Seigneur, on peut se lever tous ensemble. On peut se lever et qu'il vienne mettre en nous ce fardeau. Seigneur, je te prie, Seigneur, et te demande que ce soit maintenant, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. La promesse est ouverte, heureusement ce n'est pas par les mérites, mais puisque tu as mérité pour nous, Jésus, le baptême du Saint-Esprit, nous le recevons comme un don, un cadeau, afin d'être équipés pour le service auquel tu nous as appelés en nous laissant encore sur la terre. Bénis maintenant, remplis-nous de l'Esprit. Accorde-nous les charismes avec lesquels, Seigneur, nous pourrons apporter la guérison, la délivrance au peuple, au monde. Seigneur, nous nous attendons à toi. Que l'esprit d'amour qui nous baptise et l'esprit de prière qui nous entraîne puissent être tellement forts en chacun de nous que notre vie en sera complètement changée pour une disponibilité complète à ton œuvre et à ta volonté. Merci, Seigneur, et à toi la gloire. Amen.